Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h sur le 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM et graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet. Vous avez la possibilité de pouvoir récupérer sur le site Internet tous les podcasts de toutes les émissions de Graphite, donc n'hésitez pas. Nous sommes le 24 juin, c'est déjà la fin de cette saison de Biotine sur l'antenne de Graphite. J'ai même pas calculé, on l'a démarré en octobre 2018, donc on en est à peu près à la 12e saison, je crois. Et toutes les semaines, l'actualité scientifique est riche et on aborde toutes sortes de sujets. C'est assez intéressant parce qu'on voit un petit peu avec l'évolution des thématiques qui sont abordées dans cette émission que... Là, on parle essentiellement d'intelligence artificielle, de conquête spatiale, d'énergie, de réchauffement climatique et aussi d'études scientifiques médicales sur le cancer, sur les maladies neurodégénératives comme Alzheimer, Parkinson. Tous ces sujets-là sont abordés assez régulièrement dans cette émission. C'est un peu l'actualité du moment, bien sûr. Il y a quelques années, c'était d'autres actualités, d'autres thématiques qui étaient abordées. Ça nous donne un petit peu une vision de l'état des connaissances actuelles au niveau des laboratoires qui communiquent. Là, on est plus sur une revue de presse de l'actualité scientifique. Il y a des sites internet qui sont assez intéressants, que vous pouvez consulter régulièrement. Moi, personnellement, j'aime beaucoup le site Futura Science parce que il est très abordable, très accessible, parce qu'il est vraiment vulgarisé et il permet à chacun d'entre nous de pouvoir nous informer d'une façon claire, objective et assez simple, finalement, pour comprendre les enjeux, les résultats des recherches qui sont abordées. Donc n'hésitez pas à consulter ces sites internet. Il y a également des revues qui sont intéressantes, Science et Avenir, Science et Vie, toutes ces revues de vulgarisation scientifique. Et puis n'hésitez pas aussi à visiter un musée scientifique, il y en a toujours un près de chez vous, à vous tenir informé des conférences qui peuvent être organisées dans des centres recherche, dans des centres universitaires, dans des écoles d'enseignement supérieur. Il y a toujours quelque chose qui nous permet de nous informer sur l'état des connaissances actuelles, quels que soient les domaines, et puis de participer à des manifestations comme notamment la Fête de la Science à Compiègne. C'est quelque part un événement majeur de l'année, la Fête de la Science qui est organisée par l'Université Technologique de Compiègne, mais la Fête de la Science a lieu partout. J'ai plus les dates précises cette année, mais c'est toujours en octobre, ça va être entre le 10 et le 20 octobre à peu près dans ces eaux-là. On reviendra bien sûr sur les dates précises et sur les programmes des fêtes de la science et normalement, en tout cas j'espère, on aura encore peut-être l'occasion de pouvoir présenter une autre émission en direct de la fête de la science comme on le fait depuis plusieurs années maintenant sur l'antenne de Graphite. Donc voilà, la science est importante, elle est importante parce qu'elle apporte des réponses bien sûr à des questionnements que nous avons, elle apporte des solutions, elle apporte des pistes également, mais elle prend son temps, la science, et je dirais cette période qu'on a connue assez récemment, la période du Covid, nous a bien montré que bien la science apporte de plus en plus de réponses. Il y a un article qu'on évoquera tout à l'heure d'ailleurs, je vais retrouver sur le Covid, c'est-à-dire que, et je vous l'avais dit déjà à l'époque, je vous avais dit en 2020 quand il y a eu cette épidémie et ces différents confinements ou autres, je vous avais dit on aura des études qui vont montrer un petit peu toutes les conséquences notamment de ces confinements sur l'état psychique des enfants, par exemple, des jeunes étudiants, des jeunes adolescents, de n'importe qui aussi. On faut pas se leurrer, il y a eu des impacts, mais il faut avoir du temps, du recul pour pouvoir analyser tout cela. Et on aura de plus en plus d'articles, je pense, l'année prochaine, pour nous apporter des compléments d'informations sur cette période-là. Mais voilà, il y a un temps nécessaire pour que la science puisse apporter des réponses, des résultats. Et mais voilà, on vit dans une société de l'instant, malheureusement, qui fait que on a des fois un décalage entre les attentes et les résultats. Il faut simplement raison garder. Et puis, je pense qu'il faut aussi, d'une façon générale, avoir un minimum de bon sens. C'est ce qui manque parfois, malheureusement. En tout cas, on a essayé tout au long de cette année de vous accompagner, de vous informer, de vous apporter quelques petites informations comme cela, un petit peu sur différents sujets en termes de sciences, de technologie, de médecine, de spatial, et pour voilà, essayer de parfaire un petit peu une culture scientifique qui malheureusement fait parfois défaut. Et voilà, c'est un petit peu le but, en tout cas l'ambition de cette émission, et je vous remercie de votre fidélité depuis ces différentes années pour cette émission sur l'antenne de Graphite. C'est donc la dernière émission de cette saison. Nous sommes aujourd'hui le 24 juin en 1982, donc il y a 41 ans. Jean-Loup Chrétien était le premier spationaute de l'Europe de l'Ouest. Il était français et il a été envoyé dans l'espace dans le cadre d'une mission Soyouz T6 franco-soviétique en 1982. Au niveau de l'éphéméride, il est né un 24 juin. Il s'appelle George Nagelmakers. C'est un ingénieur civil et industriel belge. Il est fondateur de la compagnie des wagons-lits et de la compagnie internationale des grands hôtels. Il est le créateur des grands trains de luxe européens et notamment le créateur du premier Orient Express. Il est donc né un 24 juin 1845, George Nagelmakers. Le décès, le 24 juin 1875, d'Henri Labrouste, architecte français. Il a séjourné à Rome et il a ouvert un atelier de formation d'architectes qui est devenu le centre du courant rationaliste. Il fut l'un des premiers à saisir l'importance du faire en architecture. Il est notamment connu en tant qu'architecte de la bibliothèque Sainte-Geneviève à Paris et en tant que rénovateur du site historique de la Bibliothèque nationale de France. Henri Labrouste, décédé donc le 24 juin 1875. Au niveau de l'actualité et des dernières petites informations que l'on va pouvoir évoquer dans cette émission pour cette dernière, notamment les premières images d'une cavité cachée dans la pyramide de Khéops, une cavité cachée depuis 4500 ans. C'est un article qui est paru en mars dernier, mais on n'avait pas eu le temps de l'évoquer dans cette émission, donc je me permets de l'évoquer ici. Les plus de 30 ans connaissent certainement la bande dessinée Le mystère de la Grande Pyramide, hein, c'est la deuxième aventure de la série de bande dessinée Black et Mortimer. Ils auront sans doute des pensées justement à ce sujet en prenant connaissance d'une récente déclaration à CBS News de l'archéologue égyptien Zahi Hawass. Il dit « Je pense que c'est une découverte très importante car du côté nord de ce couloir, il y a une zone qui n'a pas de calcaire, elle est vide. Je pense vraiment qu'il y a quelque chose d'important sous le couloir. Ça pourrait être la vraie chambre funéraire de Khéops. » Alors ce commentaire de Zahi Hawass accompagne une publication de membres de la collaboration Scan Pyramids. C'est un projet franco-égyptien d'étude de l'intérieur des pyramides d'Égypte. Ça a été conçu et coordonné par l'université du Caire. La publication présente donc les derniers résultats de cette étude. Ils ont étudié un couloir inconnu jusqu'il y a peu dans la grande pyramide de Gizeh qui a été construite il y a environ 4500 ans pour abriter la momie du pharaon Khéops, momie qui n'a jamais été retrouvé jusqu'ici. Khéops, c'est le deuxième roi de la quatrième dynastie de l'ancien empire. Il aurait régné aux alentours de 2600 ans avant notre ère. Et la publication revient donc sur une cavité interne de la Grande Pyramide. Une cavité qui a été découverte par des membres de Scan Pyramids déjà en 2016 et qui a été étudiée plus en détail avec un système assez inédit qui permet de faire pénétrer à l'intérieur une caméra avec un genre de technique d'endoscopie. Et on peut donc avoir un petit peu plus d'informations mises à jour cette année. La caméra n'a révélé aucun contenu cependant, et pour le moment, comme il l'a justement déclaré à CBS News, eh bien, le chef du Conseil suprême égyptien des Antiquités, il s'appelle Mostafa Waziri, il avoue son ignorance et celle de ses autres collègues quant à la nature et la signification de cette espèce de cavité dont on ne sait pas si elle est accompagnée d'hôtes toutes proches. C'est comme l'espère apparemment Zahi Hawass. Ça fait quand même plus de 50 ans suite aux travaux du prix Nobel de physique Luis Walter Alvarez que l'on envisage d'utiliser les rayons cosmiques, c'est des sortes de rayons X qui vont permettre de radiographier les pyramides à la recherche de leurs secrets. Cela pourrait conduire à la découverte de tombes royales encore plus spectaculaires que celles de Toutankhamon. Alvarez voulait utiliser, au lieu des photons des rayons X, eh bien des particules de matière que l'on appelle des muons. C'est un peu des cousins un peu de l'électron, c'est des cousins un peu lourds. Ils sont très instables et ils sont naturellement produits par la désintégration d'autres particules. Et justement, ça permet d'avoir une sorte de technique d'imagerie quelque part, mais assez inédite, et inédite dans le sens qu'on ne l'a pas nécessairement utilisé dans des cas comme celui-ci. Il y a eu différentes publications qui ont été menées concernant cette technologie qui a été utilisée, des articles qui ont été rédigés dans des revues scientifiques assez renommées, comme notamment Nature, qui a permis justement de pouvoir donner des explications un petit peu plus précises sur cette technique qu'on appelle la muographie, parce qu'on utilise des muons. Et donc il y a des équipes qui ont pu essayer de utiliser cette nouvelle technologie et de voir ce que ça peut donner au niveau notamment de la structure interne de la pyramide de Khéops. Et donc cette nouvelle cavité semblait avoir une longueur minimale de 30 mètres et elle se trouverait juste au-dessus de la fameuse grande galerie. Il y a une nouvelle publication dans la revue Nature Communications qui expose toujours des résultats obtenus grâce au télescope à muons et ça donne un petit peu plus de détails sur une cavité un peu plus modeste dont la découverte avait été annoncée il y a quelques années et donc du coup on a pu essayer d'en savoir un petit peu plus. Mais bon, on n'a pas encore nécessairement toutes les informations, mais ça avance. Si vous êtes intéressé par ce genre de sujet, je ne peux que vous conseiller de regarder sur Internet, de voir un petit peu les résultats. Il y a également le CEA qui est concerné. Le CEA, c'est le Centre d'énergie atomique français. Et donc, du coup, vous pouvez sur le site du CEA, trouver toutes les informations sur ce sujet-là. Ça peut être vraiment intéressant. On va essayer d'en savoir un petit peu plus, bien sûr. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans ce qu'on appelle des technologies non invasives, c'est-à-dire qu'on ne va pas être obligé de détruire pour savoir ce qu'il y a derrière. Donc on garde la structure dans son entière forme, sans avoir à détruire. On essaye un petit peu de percer les secrets, mais pour l'instant on n'a pas encore toutes les informations. C'est à la fois assez frustrant, assez curieux, mais en tout cas voilà, on peut découvrir les premières images d'une cavité cachée dans la pyramide de Khéops, une cavité cachée depuis 4500 ans. C'est certain que la curiosité, qui est un vilain défaut, nous incite quand même à regarder d'un petit peu plus près. Donc regardez ça sur Internet, ça peut être intéressant. Allez, on écoute Alligator sur l'antenne de Graphite.
Toi qui rôde sombre et dans le noir, toi qui bouge la nuit sans espoir, je viens,
tous les jours, toujours des heures, ton étrange monde.
Obscure Cité, c'était Alligator sur l'antenne de Graphite tous les samedis entre 12h et 13h. Vous vous tenez informé de l'actualité scientifique et vous avez bien raison. Vous pouvez notamment vous abonner à Science et Avenir pour pouvoir avoir des petites brèves assez intéressantes. Et si vous n'êtes pas abonné, eh bien vous pouvez écouter Biotine parce que nous relayons un petit peu toutes ces petites brèves qui sont assez intéressantes. Par exemple, cette technique étonnante qui a permis de sélectionner le sexe d'un embryon avec 80% de chance de succès chez une centaine de couples, c'est aux États-Unis. Cette technique assez étonnante, elle est fondée sur la différence de masse entre les chromosomes X qui sont plus lourds et les chromosomes Y. Et donc cette technique, elle consiste à peser les spermatozoïdes. Alors, bien sûr, une telle manipulation est interdite dans la plupart des pays, sauf situation médicale exceptionnelle. Il n'empêche que voilà, ça, on pourrait peser les spermatozoïdes pour choisir le sexe du bébé. Assez étonnant, mais quelque part, c'est une technologie qui montre une certaine fiabilité. Et c'est l'université de Cornell aux États-Unis qui a donné cette information. Toujours d'un point de vue médical, on sait qu'il y a des plaies chroniques qui touchent notamment les personnes diabétiques. Contre ces plaies chroniques, il y a une équipe qui montre sur des peaux qui ont été cultivés en laboratoire, qu'il est possible de guider les cellules nécessaires à la cicatrisation en utilisant des courants électriques faibles. La guérison des plaies testées était ainsi jusqu'à 3 fois plus rapide avec une stimulation électrique appliquée par des électrodes. C'est l'université de Fribourg en Allemagne qui apporte cette information, qui est totalement intéressante parce que du coup, on est sur une orientation de la cicatrisation qui devient plus efficace parce que plus rapide, avec donc l'utilisation d'impulsions électriques. Alors, cette étude a, comme on l'a dit, été menée sur des peaux cultivées en laboratoire. Donc, on n'est pas nécessairement sur une application directe au niveau du corps humain. Il n'empêche que ça peut donner une piste assez intéressante. Enfin, l'université de Paris qui donne cette information, notamment, ils ont travaillé avec la maternité Port-Royal à Paris. C'est ce qu'on appelle le Quality Skate. Ça vise à stimuler la marche primitive des premiers jours. Elle est apprise dans le ventre de la mère et ça a été testé notamment sur des grands prématurés. C'est une espèce de dispositif comme un genre de skateboard qui permet de compenser en partie le déficit moteur des jambes et de voir les progrès à 9 mois. Un genre de skateboard qui permet de favoriser la marche des prématurés. Ça a été développé cette technologie avec 300 nouveau-nés bien portants à la maternité Port-Royal donc à Paris et donc du coup ça peut donner des résultats totalement prometteurs pour permettre à ces jeunes grands prématurés d'avoir un dispositif qui va pouvoir les aider à apprendre à marcher de façon beaucoup plus efficace et beaucoup plus rapide là également. Voilà. Ensuite, toujours au niveau médecine, on a cet article de Futura Science que je voulais évoquer qui date d'avril et qui est assez intéressante concernant la maladie d'Alzheimer. On sait, c'est très souvent dans cette émission qu'on parle des recherches concernant la maladie d'Alzheimer parce qu'on essaye un petit peu de comprendre d'origine et d'identifier aussi quelques pistes thérapeutiques. Et là, ça concerne l'œil, le fond d'œil, qui permet de visualiser les structures profondes de l'œil. Eh bien, ça pourrait permettre de diagnostiquer la maladie d'Alzheimer plus tôt qu'actuellement, parce que la maladie est souvent révélée avec l'apparition de symptômes comme la perte de mémoire et le changement de comportement, alors qu'elle commence à se développer dans le cerveau des décennies auparavant. Et d'après les scientifiques, on peut voir directement le système nerveux en regardant à l'arrière de l'œil, vers le nerf optique et la rétine. Et donc, pour la première fois, il y a une étude qui a apporté des analyses approfondies des effets moléculaires, cellulaires et structurels de la maladie d'Alzheimer dans la rétine humaine. Elle montre que les changements dans la rétine sont en corrélation avec des changements dans des parties du cerveau responsables de la mémoire, responsables de la navigation, responsables de la perception du temps. Et donc les chercheurs de cette étude qui a été publiée dans la revue Acta Neuropathologica, ils ont effectué, les chercheurs, une analyse approfondie justement des tissus des rétines et des tissus de cerveau après la mort, provenant de 86 donneurs humains qui étaient atteints de la maladie d'Alzheimer ou de troubles cognitifs légers. Et les chercheurs ont comparé ces échantillons à ceux provenant de donneurs avec une fonction cognitive jugée normale. Et donc, chez les personnes atteintes à la fois par la maladie d'Alzheimer et par un déclin cognitif précoce, eh bien, il existe une augmentation importante d'un marqueur de la maladie d'Alzheimer, qui est la bêta-amyloïde. Plus généralement, en fait, chez les personnes qui souffrent de troubles cognitifs, eh bien, les cellules qui sont chargées de réparer et d'entretenir d'autres cellules et de pouvoir éliminer justement cette bêta-amyloïde du cerveau et de la rétine, eh bien, les cellules qui sont chargées de réparer ça, elles ont diminué de 80%. Et donc, selon l'étude, eh bien, l'atrophie tissulaire, l'inflammation dans les cellules au niveau de la rétine serait donc permettrait d'avoir une prédiction justement de l'état cognitif. Si bien que cet article se résume en disant « La maladie d'Alzheimer pourrait se lire dans les yeux, effectivement. » C'est une piste assez intéressante parce que ça permettrait d'avoir un diagnostic plus précoce et ça permettrait donc d'anticiper cette maladie qui est quand même assez souvent décelée tardivement, c'est-à-dire elle est décelée quand elle est déjà déclarée d'une façon assez avancée. Voilà, donc c'est cette étude assez intéressante qui permet justement d'en savoir un petit peu plus sur un moyen de détection de la maladie d'Alzheimer. Autre sujet, autre thématique, et si on se posait la question de savoir ce qu'il se passait si la Terre s'arrêtait de tourner. Et il y a un article assez intéressant qui montre un petit peu ce qu'il peut se passer. Lorsque la rotation de la Terre sur elle-même a été suggérée pour la première fois, on était au 5e siècle avant Jésus-Christ. L'idée, elle a ensuite été abandonnée et puis elle est revenue au niveau du à peu près 16e, 17e siècle. C'est avec les théories de l'héliocentrisme, la loi de la gravitation universelle. Alors depuis, on le sait, la Terre, elle tourne sur elle-même sans qu'on s'en rende vraiment compte. Mais il y a des chercheurs qui ont récemment remarqué que cette rotation ralentissait. On en avait parlé dans cette émission il y a quelques mois. Et se sont demandé, mais si la Terre s'arrêtait vraiment de tourner, qu'est-ce qu'il se passerait ? Alors déjà, il y aurait un impact, bien sûr, sur l'alternance des jours et des nuits, bien sûr, parce qu'on pourrait vivre avec des journées et des nuits de 6 mois, voire même totalement des nuits ou des jours éternels, entre guillemets, parce que si ça s'arrête totalement, là, c'est assez compliqué, avec des températures extrêmes qui vont osciller soit à 60 degrés Celsius ou alors à moins 50, hein, ça dépend bien sûr de l'ensoleillement. Alors il faut choisir de quel côté on veut aller, mais c'est quand même assez compliqué. Pour aller plus loin encore, si la Terre elle s'arrête brusquement de tourner, eh bien on serait tous projetés du côté est par effet d'inertie. C'est un peu le même effet que celui qui nous fait chuter quand il y a un bus qui freine assez brusquement. Ça nous est tous arrivé, le bus freine et des fois on trébuche totalement. Sauf que le bus, bon, lui, il a quoi, 40-50 km/h, voire 60 des fois. Là, la Terre, c'est 1000 km/h. Imaginez la chute si la Terre s'arrête de tourner de façon assez brutale. C'est assez violent. La Terre changerait aussi de forme pour devenir parfaitement ronde, alors que là, elle a quand même un peu une forme d'ellipsoïde. Et ce sont aussi les plaques tectoniques qui s'en trouveraient principalement affectées, parce que notre planète connaîtrait alors une période particulièrement riche en séismes. Puis c'est pas tout, hein, parce qu'en se rééquilibrant, eh bien, les océans inonderaient la plupart des terres émergées, ce qui va provoquer d'immenses tsunamis avant finalement de se concentrer sur les pôles du fait de la disparition de l'effet de la force centrifuge. Puis enfin, le champ magnétique qui fait office de bouclier en déviant les particules du vent solaire serait lui aussi impacté. Si la Terre s'arrêtait de tourner, eh bien ce champ magnétique s'évanouirait et nous nous retrouverions exposés à des radiations mortelles. Bref, vaut mieux qu'elle continue de tourner, la Terre, ça serait quand même pas mal. Et si la Terre était plate ? Ah, mais il y en a qui y croient, hein. Bon, Elle ne l'est pas, mais un sondage qui montre quand même qu'un Français sur 10 pense que la Terre est plate. Et il y a même un regroupement officiel qui s'appelle la Flat Earth Society, donc la société des platistes. Hein. C'est un regroupement qui va regrouper des personnes qui pensent que la Terre est plate. Et selon eux, la Terre est un disque plat avec en plein centre le pôle Nord et aux extrémités un immense mur de glace. C'est un peu comme Game of Thrones, hein, quelque part. Mais alors qu'est-ce qui se passe réellement si la Terre était plate ? Alors, tout d'abord, nous serions continuellement attirés par le point de gravité situé au centre. Et une fois aux extrémités, la vie se ferait à la verticale. Les arbres seraient alors penchés et les balles tomberaient en forme de courbe. Ainsi, pour vous diriger vers le centre, eh bien, la gravité vous faciliterait le pas. Cependant, pour vous diriger en direction des extrémités du disque, hein, de l'autre côté, eh bien vous aurez la sensation d'avoir une force qui vous tire en arrière, ce qui n'est pas nécessairement le cas, parce que quand on marche dans toutes les directions, on n'a pas une force qui nous attire en arrière. Nos océans et même l'oxygène seraient également attirés par le point de gravité. Ainsi, toute l'eau serait concentrée au milieu de la planète et l'atmosphère ne couvrirait qu'un mince anneau de territoire habitable autour de cet océan central. Bref, si la Terre était plate, la tectonique des plaques ne fonctionnerait pas non plus. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez ? Il paraît que la Terre est plate. Moi, je n'y peux rien, j'abandonne. Moi, je ne sais plus ce qu'il faut dire ou ce qu'il peut faire. Dans ces cas-là, on écoute un peu de musique. You can pray on a nigga, you can pray for a nigga, no sweat. But if you pray on a nigga, don't play, cause I'm sick in the head. You can pray on a nigga, you can pray for a nigga, no sweat. But if you pray on a nigga, don't play. Hey, me que yo sé que me empoco yo pa' con el pa' femo malo, ne me si yo pa' fomeli pa' cole. Ni poco le yo gane pa' si te diga son ma' come la dili pa' come. Yo hay sampi ma' se ma' come explica vole. Como acote yo pa' pi pa' pase yo pa' fingre se va de ta yo gane pi baga yo pito pa' coe. Yo gane pa' pole. Yo gane pa' pole. Yo me vi de chercher trabay. Ou pa' si me pa' tes yon pi peti res me su jesu me su papay. Pa' ta de res bi su besu ma' pa' en verse bi na pa' yon le reke campe sou tout de bo pa' ga gomet. Pa' fe yon tiga vi sa ta gomet ma' pa' nan get. Nek pa' be ba' bi la ba' ba' mon cher, mon cher, mon cher, mon cher, yo ga que va voler. Qui côté os mon avec un sayo, yo pa' ka foca, ven mi otro hace un sayo. Qui côté os mon avec un sayo, yo pa' ka foca, ven mi otro hace un sayo. Sayo. I told my nigga pray for Haiti and he told me take the R out. Take the R out. My nigga told me, big, you need to pay for Haiti. That I'm talking about. That I'm talking about. I told my nigga pray for Haiti and he told me take the R out. Take the R out. My nigga told me, big, you need to pay for Haiti. That I'm talking about. That I'm talking about. I sit the Perrier your way down, pick up the ace, I up the stake, Muhammad Hussein, bustin' another grape, LVMH, puffin' another J, niggas selling spirits, better get out the way, it's just another taste, I see niggas in your feelings, you don't wanna fade, underweight, nigga wanna plate, and he don't wanna pay, I keep a stick at home base, like I'm buntin' strays, wanna play, like vitamins, fuck the one a day, niggas talking like they unafraid, if we talking bars, then the payday, no less than 100K, they like to say they involved, but they don't want exchange, when the shots go off, you crossin' another plane. Kiko Deus, one avec un sayo. Yo pa' ka foca, ven mi otro hace un sayo. Kiko Teos, one avec un sayo. Yo pa' ka foca, ven mi otro hace un sayo. Un sayo. Jolene, Jolene, Jolene. Pay for Haiti, c'était Cretananda, pardon, sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h et la rediffusion le mardi matin à 10h pour vous tenir informé de l'actualité. Pourra-t-on bientôt détecter l'anxiété dans le sang? C'est une étude aussi assez intéressante qui essaye d'apporter quelques éléments. L'anxiété, c'est une réactivité accrue en prévision d'événements perçus comme délétères, accablants ou difficiles. Ce trouble nécessite plus de considération et une meilleure prise en charge, étant donné qu'une personne sur trois connaîtra un épisode de trouble anxieux clinique au cours de sa vie. L'anxiété peut gravement affecter la qualité de vie, conduisant parfois à l'alcoolisme, voire au suicide. Alors, comme tous les patients ne répondent pas au traitement des médicamenteux actuels, eh bien, il est essentiel de trouver une solution plus adaptée à chaque individu. Il y a d'autres troubles de la santé mentale qui ont déjà fait l'objet de recherches pour faciliter leur diagnostic. Ainsi, il y a le professeur de psychiatrie Alexander Niculescu et son équipe qui ont mis au point des tests sanguins pour la douleur, la dépression, le trouble bipolaire et le syndrome de stress post-traumatique. Leurs derniers travaux qui ont été publiés récemment dans la revue Molecular Psychiatry utilisent des méthodes similaires pour l'anxiété. Ça a été validé par les chercheurs et donc ce test examine les biomarqueurs qui peuvent aider à déterminer la gravité de l'anxiété actuelle, à prédire le risque de développer de l'anxiété, ainsi que à trouver de meilleures thérapies pour contre ce trouble. L'adéquation entre les individus et les médicaments appropriés en fonction de leur profil de biomarqueur est l'un des principaux résultats de notre travail, c'est ce qu'indiquent les chercheurs. Alors ces chercheurs ont utilisé une approche en 4 étapes afin de découvrir les biomarqueurs sanguins de l'anxiété. Tout d'abord, ils ont utilisé un modèle chez des personnes souffrant de troubles psychiatriques pour découvrir les changements d'expression génétique dans le sang entre différents niveaux d'anxiété qui se basent sur la déclaration des personnes elles-mêmes. Ensuite, ils ont classé par ordre de priorité une liste de 95 biomarqueurs candidats. Ils ont validé ces biomarqueurs les plus importants issus justement de leur étude et ils ont également testé l'utilité clinique de ces biomarqueurs, c'est-à-dire leur capacité à prédire l'état de gravité de l'anxiété et l'aggravation clinique future, c'est-à-dire les hospitalisations qui peuvent être causées par l'anxiété. En somme, l'examen de ces biomarqueurs au niveau de l'ARN dans le sang permet d'identifier l'état d'anxiété actuel d'un patient et le faire correspondre avec des médicaments en montrant l'efficacité de différentes options, tout cela en fonction de sa biologie bien évidemment. Alors ce nouveau test pourrait également permettre de développer de nouveaux traitements de l'anxiété qui sont ciblés sur les biomarqueurs individuels. Et donc selon le professeur Niculescu, il serait préférable de l'utiliser en combinaison avec les autres tests sanguins de dépistage des troubles de la santé mentale, ce qui permettrait d'avoir une vision plus complète de la santé du patient. Il s'agit d'un test qui pourrait être intégré aux visites de bien-être régulières des patients afin d'évaluer leur santé mentale au fil du temps et de prévenir toute détresse future. C'est ce qu'il a donc déclaré dans un communiqué de l'Université de l'Indiana aux États-Unis. Mais voilà, on pourrait peut-être bientôt détecter l'anxiété dans le sang. C'est quand même un sujet assez intéressant, une découverte assez prometteuse. Science et avenir, avec ces deux petites brèves qui concernent la médecine. Alors, notamment la myopie, avec des verres qui ralentissent la myopie, une preuve supplémentaire de l'efficacité dit des verres de frénation. Ces verres de frénation, ça vise à ralentir l'évolution de la myopie dès l'enfance. Eh bien, une preuve supplémentaire vient d'être apportée par une étude dans la revue Scientific Reports. Cette étude a suivi pendant 6 ans un groupe de jeunes asiatiques avec des verres qui étaient spécifiques. Ils les ont portés 12 heures par jour et le bilan, c'est que ça ralentit de 60% en moyenne la progression du trouble visuel par rapport aux verres classiques et il n'y a pas d'effet rebond à l'arrêt de ces deux verres. Ils sont commercialisés depuis 2 ans en France. Ils sont équipés d'une constellation de micro-lentilles qui sont destinées à corriger l'hypermétropie périphérique, ce qui est caractéristique de l'œil myope un petit peu trop long. Un outil d'avenir, hein, c'est assez intéressant. Et les données de prévalence de la myopie, elles sont quand même assez inquiétantes. 20% de la population mondiale était concernée en 1970. contre 40% aujourd'hui, ce qui représente 2,6 milliards de personnes, un chiffre qui pourrait bondir à 5 milliards d'ici 2050. 2050, c'est une poignée d'années, selon des projections récentes. Et donc, du coup, ces verres pourraient ralentir la myopie. C'est véritablement intéressant. Et enfin, cette équipe de l'hôpital pour enfants de Boston, aux États-Unis, a annoncé avec succès la première chirurgie cérébrale au monde réalisée à l'intérieur de l'utérus sur un fœtus de 34 semaines. Une manœuvre délicate qui a vu les chirurgiens réparer un vaisseau sanguin mal formé dans le cerveau en introduisant un microcathéter à travers le crâne du bébé. C'est quand même une expérience totalement extraordinaire. Il est né 2 jours plus tard et l'enfant se portait toujours remarquablement bien après 6 semaines selon donc ses médecins. C'est une brève de futur de Science et Avenir, pardon, que vous pouvez lire dans le Science et Avenir du mois de juin, qui doit être encore dans tous les kiosques. Si vous n'êtes pas abonné, ça peut être intéressant de pouvoir le feuilleter. Enfin, concernant l'endométriose, il y a un nouveau traitement par anticorps contre l'endométriose qui a permis de réduire sans chirurgie les lésions de la maladie. Ça a été testé pour l'instant uniquement sur des singes. La recherche est actuellement soumise à la relecture. Mais ça a quand même été communiqué. L'étude d'échantillons d'endométriose humaine a montré que la progression de la maladie était associée au développement de l'inflammation et de la fibrose. En outre, les niveaux d'une molécule assez particulière qui est un acteur majeur de la réponse inflammatoire de l'organisme, les niveaux étaient fortement régulés à la hausse dans les tissus qui étaient concernés par l'endométriose. Et donc, à partir de cette observation, les chercheurs ont mis au point un traitement par anticorps qui permet justement de pouvoir bloquer cette molécule spécifique. Et donc, chez 2 des 4 singes atteints par une endométriose spontanée, le blocage de cette molécule par l'anticorps a réduit la taille des lésions, la fibrose et les adhérences. Les chercheurs ont ensuite développé un anticorps plus puissant, pouvait être administré par injection sous-cutanée tous les mois. Et en testant 2 doses différentes par rapport à un témoin, ils ont constaté le même effet chez des singes ayant subi une implantation chirurgicale de ce tissu concerné par l'endométriose. L'idée, c'est de pouvoir essayer d'imiter la condition humaine, bien sûr, parce que l'on travaillait avec des singes. Donc les premiers résultats sont assez intéressants. C'est vraiment le début d'une recherche qui va être assez longue, parce que l'étude doit bien évidemment être approfondie. On n'en est que sur des résultats préliminaires pour l'instant. Mais ça pourrait représenter une thérapie modificatrice de la maladie pour les patientes atteintes d'endométriose. Donc voilà, ça fait naître beaucoup d'espoir, mais pour l'instant, on est là encore vraiment au tout début d'une étude et donc une communication qui a été faite peut-être un petit peu trop tôt à voir il va falloir avoir un certain temps, bien sûr. Il va falloir être patient en clair parce que pour l'instant, les résultats n'en sont qu'à leur tout début. Mais on pourra suivre dans les prochaines émissions de Biotine, bien sûr, l'évolution de ces recherches, bien évidemment. Allez, on continue à feuilleter la revue de presse de l'actualité scientifique dans cette dernière émission de cette saison. Et puis, on écoute aussi un petit peu de musique parce que ça nous fait du bien. We'll be right back. Crutch, c'était Band of Horses sur l'antenne de Graphite. J'étais en train de chercher justement cet article. Je vous parlais au tout début de cette émission du Covid-19 en vous disant voilà, qu'il y avait des articles qui paraissaient assez régulièrement. Et donc j'ai retrouvé celui que je voulais évoquer avec vous. Il date du mois d'avril, mais on n'avait pas eu le temps de l'évoquer dans les émissions précédentes. Et qui explique que les femmes sont en moyenne plus contaminées par le Covid-19 que les hommes, en particulier parmi les adultes actifs. Alors, quelques éléments de réponse qui ont été évoqués, notamment la surreprésentation des femmes au sein des métiers exposés au virus, les infirmières, les aides-soignantes, professeurs, et le fait que les femmes se font en moyenne plus tester que les hommes. Donc c'est peut-être pour ça aussi que l'on considère qu'elles sont plus contaminées. C'est parce que statistiquement, comme elles sont plus nombreuses à se faire dépister, du coup, les chiffres montrent qu'elles sont plus nombreuses. Ce qui n'est peut-être pas la réalité, mais en tout cas, c'est les résultats statistiques. On observe aussi que les femmes sont plus réticentes que les hommes à se faire vacciner. Les hommes auraient été plus respectueux des recommandations vaccinales. Et la question qu'on se pose, c'est pourquoi la Covid-19 provoque-t-il plus de morts chez les hommes que chez les femmes. La mortalité générale en France a connu une hausse de 7% des décès en 2021 par rapport à 2019. Et donc, ça s'explique en partie par l'augmentation de la population et de son vieillissement. L'espérance de vie à la naissance était en 2021 de 79,3 ans pour les hommes et de 85 ans pour les femmes. Cela signifie qu'un homme a un risque plus élevé de mourir dans l'année qu'une femme du même âge. Et en raison de l'épidémie de Covid-19, eh bien l'espérance de vie a reculé pour les hommes, plus pour les hommes que pour les femmes en 2020 par rapport à 2019. Alors, quelles que soient les causes de décès, il existe une surmortalité des hommes par rapport aux femmes. Alors, les femmes, elles sont biologiquement moins fragiles que les hommes, mais les hommes prennent souvent plus de risques au niveau sanitaires et ont des comportements plus nocifs, le tabac, l'alcool notamment. Et les femmes sont généralement plus attentives à leur santé et consultent plus souvent les médecins. Avant la cinquantaine, la surmortalité masculine due à la Covid-19 est moindre que pour l'ensemble des décès, mais elle est plus importante à partir du groupe d'âge 55-64 ans. Et cela pourrait être dû au risque plus grand pour les hommes d'être contaminés à ces âges en raison de leur comportement, le respect des gestes barrières qui sont justement moins respectés, une plus grande interaction sociale, moins de télétravail. Et d'autre part, les personnes en situation d'obésité sont des personnes vulnérables à la Covid-19 et les pathologies associées augmentent le risque de décès. L'hypertension et le diabète notamment, ça peut avoir un impact. Donc la surmortalité masculine due à la Covid-19 a atteint un maximum dans la tranche d'âge des 65-74 ans. En effet, la capacité du système immunitaire à lutter contre les infections diminue avec le temps et cela est considérablement réduit également chez les personnes de plus de 70 ans. Alors pourquoi les femmes, même âgées, résistent mieux à la Covid-19 que les hommes ? Eh bien, certains scientifiques suggèrent que les femmes développent une meilleure réponse immunitaire grâce aux hormones qu'elles sécrètent. Les œstrogènes peuvent ainsi stimuler des réflexes immunitaires importants pour éliminer une infection virale et bien répondre aux vaccins. Voilà pourquoi ce sont des suppositions, ce sont des pistes hein, qui sont données. On n'est pas nécessairement sur une vérité scientifique immuable, mais voilà quelques éléments de réponse qui peuvent expliquer pourquoi les hommes meurent plus de la Covid-19 que les femmes. Et là encore, ben c'était une analyse, quelque part une analyse statistique qui a été menée. Et là encore, on peut ne la mener qu'après l'événement. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas eu ces informations sur l'instant et qu'on les a eues. Voilà, cet article date du mois d'avril, donc avril 2023, sur des éléments qui ont porté essentiellement sur l'année 2020 et aussi un peu 2021. Donc voilà, il faut bien sûr du temps pour pouvoir recueillir les données, exploiter les données, analyser les données et en tirer des résultats et des voilà ou en tout cas des suppositions également dans ce sujet-là. Et donc on aura régulièrement dans cette émission, et je n'en doute pas, de plus en plus d'informations, de plus en plus d'articles qui vont expliquer les recherches et les résultats de recherche menés sur cette période assez compliquée de crise sanitaire liée au Covid-19 et tous les impacts d'un point de vue médical, purement médical, mais aussi d'un point de vue un petit peu psychique, psychologique, car là on a encore très très peu d'études sur les impacts qu'il y a pu y avoir sur notamment les jeunes dans ces domaines-là, mais moi je, enfin, je sais d'avance qu'on aura pas mal d'informations, mais voilà, avec un certain temps de retard, enfin de retard d'analyse, et qui font que l'information, on l'aura un petit peu en décalage. Autre information concernant l'Institut Pasteur qui s'inquiète de l'arrivée en France de ce qu'on appelle la shigellose. Alors j'espère que je le prononce bien, ou peut-être shigellose d'ailleurs, je ne sais pas, qui est résistante aux antibiotiques. C'est la bactérie Shigella soni qui est responsable de la shigellose ou shigellose. Alors je vous avoue que j'ai un doute, je ne sais pas si c'est on fait le G ou un G. Bon, je vais dire shigellose peut-être. En fait, c'est une maladie très contagieuse qui provoque généralement des diarrhées de courte durée et la transmission elle est assez assez contagieuse. La bactérie circule dans les pays industrialisés essentiellement ou en cours d'industrialisation. Il peut y avoir des formes sévères qui nécessitent un traitement antibiotique. Et récemment, des chercheurs de l'Institut Pasteur ont constaté l'émergence d'une nouvelle souche de cette bactérie qui devient très résistante aux antibiotiques, et ils ont donc publié un communiqué il y a quelques semaines. Il y a plus de 7000 souches de Shigella sonnei qui ont été analysés entre 2005 et 2021 en France à titre de surveillance, et en 2015 il y a des souches de cette bactérie hautement résistante aux antibiotiques qui ont été signalées pour la première fois. La proportion de ces souches a augmenté progressivement pour atteindre un pic en 2021. Cette année-là, près d'un cas sur quatre de shigellose était lié à justement une bactérie résistante à presque tous les antibiotiques. Donc ça devient quand même assez inquiétant. Les cas signalés en France sont survenus soit chez des voyageurs revenant d'Asie du Sud, soit chez des hommes adultes ayant des relations sexuelles, des relations homosexuelles. Et une analyse plus poussée par séquençage génomique a mis en évidence que les souches résistantes provenaient toutes d'une même lignée originaire d'Asie du Sud. En 2007, il avait déjà été signalé que celle-ci était devenue résistante à un antibiotique clé qui est la ciprofloxacine. Puis cette lignée a progressivement acquis d'autres résistances à d'autres antibiotiques, et ceci peut en partie s'expliquer par une utilisation non appropriée des antibiotiques, notamment en Asie du Sud et en Asie du Sud-Est. Une utilisation non conforme en fait aux bonnes pratiques des antibiotiques, ça favorise l'émergence des résistances. Et les seuls antibiotiques encore efficaces sont encore administrés par voie intraveineuse au milieu hospitalier. Mais au bout d'un moment, ça va être compliqué si cette bactérie devient résistante à tout. Dans le cadre de consultations pour infections sexuellement transmissibles, les médecins doivent connaître cette souche émergente. Il y a un antibiogramme qui doit être réalisé de manière systématique en cas d'isolement d'une shigella. Un antibiogramme, c'est un test en fait de laboratoire qui permet de prédire la réponse ou la résistance d'une bactérie à un antibiotique. Ça permet d'une part d'optimiser la surveillance de ces souche, puis d'autre part, ça permet d'améliorer aussi la prise en charge du patient. Il y a des recherches complémentaires qui sont bien sûr nécessaires pour mieux comprendre cette pathologie et savoir si, par exemple, il existe des formes asymptomatiques. Des essais doivent aussi être réalisés pour identifier les antibiotiques efficaces contre la nouvelle souche de cette bactérie. Mais voilà, l'arrivée en France de la shigellose ou shigellose résistante aux antibiotiques inquiète bien sûr l'Institut Pasteur. Tu m'étonnes, parce que si il y a une résistance aux antibiotiques, ça peut avoir des effets assez conséquents que l'on va difficilement pouvoir maîtriser. Des petites brèves pour finir avec Science et Avenir, pardon, notamment des études sur les animaux, avec notamment cette éléphante d'Asie qui est hébergée au zoo de Berlin. Elle s'appelle Pangfa. Elle a surpris ses soigneurs en apprenant toute seule, en observant les humains, à peler des bananes lorsqu'elle les juge trop mûres. C'est quand même génial. Si elle avale les fruits verts entiers, en revanche, elle préfère les peler dès qu'il y a des taches brunes qui apparaissent. Et donc, selon l'étude qui lui est consacrée, son geste est bien plus sûr et rapide que celui des humains. C'est quand même assez étonnant. Et elle a fait ça par mimétisme quelque part. C'est l'université de Berlin qui nous donne cette information et que l'on peut trouver dans Futura Science. Et c'est assez intéressant. Et puis, cette autre information qui est plutôt visuelle, mais qu'on peut aborder dans cette émission, c'est ce qu'on appelle le balancement balancement optimal qui a été mis en équation. En fait, en ajustant la position de leur corps, les enfants apprennent vite à utiliser une balançoire de façon optimale. Alors, c'est un savoir empirique qui, pour la première fois, a été mis en équation, a été modélisé, a été expérimenté. Les scientifiques ont décrit la balançoire par 3 segments. Le siège, qui est fixe, le torse et les jambes des usagers qui, eux, sont mobiles. Et quand les balancements débutent, la meilleure stratégie, c'est d'allonger les jambes et se pencher en arrière au moment où le siège passe sous le portique vers l'avant. On sait tous ça. Et à mesure que l'amplitude augmente, l'optimum se déplace vers l'arrière. Et pour aller au plus haut, il faut alors étendre le corps juste avant que la balançoire reparte vers l'avant. On a tous connu ça, bien sûr. Sauf que pour la première fois, ça a été modélisé et mis en équation par une formule mathématique qui décrit la balançoire. Et c'est assez intéressant pour ceux qui aiment les mathématiques de feuilleter Science et Avenir, où je pense que vous pouvez regarder également, notamment sur le site de l'université Jumon, c'est au Japon, qui vous permettra peut-être d'en savoir plus sur la mise en équation de cela. Voilà, bah c'était par une balançoire que nous allons terminer cette émission de Biotine. Merci à vous de votre fidélité, de votre attention, tous les samedi entre 12h et 13h et la rediffusion le mardi matin à 10h sur l'antenne de Graphite. Tous les samedis, voilà, j'ai essayé de vous apporter un petit peu de savoir scientifique sur différents domaines. Alors, c'est pas toujours évident, bien sûr, de parler de science à la radio parce que je n'ai que ma voix pour essayer de vous apporter des informations. J'essaye d'être le plus objectif et le plus clair possible. Je sais que c'est pas toujours évident parce que les sujets abordés sont parfois complexes. En tout cas, ils sont variés et ils illustrent tous justement l'état des connaissances que l'on a sur tous les sujets et les thématiques scientifiques qui nous concernent, qui nous touchent. Profitez de cet été pour vous tenir informé de l'actualité scientifique. Vous avez plein de sites internet, vous avez des revues qui existent et comme je vous le disais bien sûr tout à l'heure, eh bien en vacances, aller visiter un musée scientifique ou technique, ça peut être intéressant. Et puis voilà, essayez de glaner comme ça quelques informations. Essayez également de vous approprier ces informations scientifiques et de vous forger votre propre avis sur des sujets voilà, qui nous concernent. Qu'est-ce qu'on doit penser de l'intelligence artificielle? Qu'est-ce qu'on doit penser de la transition énergétique? Qu'est-ce que l'on doit faire contre le réchauffement climatique? Qu'est-ce que l'on peut faire en termes de recherche médicale? Jusqu'où on peut aller également pour essayer d'avoir des résultats et des pistes thérapeutiques intéressantes sur le cancer, sur le sida, sur les maladies neurodégénératives? Quelles décisions on doit prendre en termes d'utilisation des véhicules à moteur thermique, sur la mobilité verte, comme on le dit si bien, sur l'urbanisation, sur l'utilisation des ressources naturelles, sur l'utilisation des énergies fossiles. Tous ces sujets-là vous concernent, nous concernent tous, et on a aussi notre mot à dire. Seulement, pour pouvoir nous forger une opinion et un avis et un argumentaire, on doit pouvoir comprendre le plus possible les sujets qui sont concernés. Donc, voilà, dans cette émission, on essaye d'apporter des éléments, quelques éléments pour vous permettre justement de vous forger votre propre opinion. Mais c'est à vous aussi de faire quelque part le travail, j'allais dire. Donc n'hésitez pas pendant cet été à rester tenu informé de tous ces sujets scientifiques et techniques parce que des décisions doivent être prises et elles ne doivent être prises que par les citoyens. C'est ça qui est important, c'est vous, c'est nous qui avons la main sur ces sujets-là. On doit l'avoir en tout cas, on ne doit pas nous confisquer certaines décisions. Donc on est sur des sujets assez sensibles en ce moment, on le sait très bien et on peut peut-être déplorer peut-être un manque à la fois d'informations, un manque de débat ou un manque d'échange. Donc prenez la parole, exprimez-vous et pour cela vous pourrez vous exprimer qu'à partir du moment où vous allez pouvoir maîtriser de plus en plus ces sujets. Donc c'est un effort quelque part qu'il faut faire, mais nous sommes là ensemble pour pouvoir vous accompagner dans cette démarche-là. C'est l'un des buts de Biotine sur l'antenne de Graphite qui vous permet donc tous les samedi d'aborder ces sujets-là. C'est aussi quelque part assez inédit de permettre justement l'existence, j'allais dire, d'une telle émission, parce qu'on est quand même dans le cadre de Radio Graphite, un peu une émission, j'allais dire, un peu à part, entre guillemets, parce qu'on n'est pas du tout dans une émission purement musicale ou culturelle, sauf si on parle de culture scientifique, dans ces cas-là, oui, elle a toute sa place, mais en tout cas, merci à la direction de Graphite de me permettre de pouvoir animer cette émission toutes les semaines. J'espère vous retrouver à la rentrée de septembre. J'ai pas nécessairement encore précisément les dates de la rentrée, mais voilà, j'espère vous retrouver à la rentrée parce qu'on aura encore plein de choses à évoquer, des choses importantes, parfois anxiogènes, mais aussi des choses quand même totalement passionnantes, parce que c'est ça la science, c'est la passion, bien évidemment. Je vous souhaite de passer une très bonne journée et de passer un très bon été. Prenez soin de vous, bien sûr, et on se retrouve à la rentrée sur l'antenne de Graphite. Bonne journée à tous, à bientôt, merci. Au revoir.